Le journal Claire Viget.
Bonjour. Sensibiliser les plus jeunes au racisme et à la discrimination, c'est en début de Pro Junior Arc Jurassien. L'association propose une série d'événements dont le premier est agendé ce dimanche à Bévillard. La fin d'une partition, celle de l'iPod pour Apple. Le géant américain a annoncé qu'il cessait la production de son lecteur MP3 emblématique. Nouvelle tête sur les bords du terrain du FC Moutier, Walter Dos Reis a été choisi pour succéder à Frédéric Brugère. Sa mission, éviter la relégation. Et puis 18 degrés au sommet du Chasseral, 27 au bord du lac de Bienne. Les températures annoncées pour cet après-midi par Météo News sont au-delà des normes saisonnières. Le printemps prend des airs d'été. Il n'y a pas d'âge pour s'informer sur le racisme et la discrimination. Pro Junior Arc Jurassien organise une série de manifestations appelées Contes. Des manifestations qui ciblent les enfants de 4 à 12 ans. Ce dimanche, des activités gratuites seront proposées au cinéma Palace de Bévillard pour découvrir la diversité culturelle. Les enfants pourront écouter les histoires du conteur ivoirien Zoko Zoko et déguster des spécialités sucrées du Liban, d'Érythrée, du Sri Lanka ou encore du Congo. Selon le chef de projet, la sensibilisation sur la discrimination doit être mise en place dès le plus jeune âge. Mathias Lebet.
Ça part d'un constat justement d'un rapport de l'OFS aussi qui a été réalisé entre 2016 et 2020, qu'un tiers de la population se sent dérangée par la présence de personnes perçues comme différentes. Et puis on le voit aussi avec la réalité qu'on traverse actuellement à l'est de l'Europe, que ces questions-là sont encore sous-traitées et qu'il est vraiment important de les aborder avec les plus jeunes pour pouvoir déconstruire ces schémas dès le plus jeune âge.
Ce genre d'activité cible les 4 à 12 ans. Est-ce qu'il y a un âge limite à partir duquel on peut aborder ces thématiques?
Non, je pense que justement, on peut aborder ces thématiques à tout âge. C'est vrai que justement, on cible les familles aussi pour toucher les parents dans un second temps. C'est vrai que c'est important aussi de les sensibiliser, même si ce n'est pas le public cible. On espère aussi semer des petites graines dans leur esprit pour pouvoir les sensibiliser à ces questions de discrimination.
Pour sauter le pas, amener son enfant justement à ces activités, il faut quand même se questionner soi-même. Est-ce que vous n'avez pas peur de cibler les mauvaises personnes, celles qui sont déjà suffisamment informées?
Alors c'est l'avantage justement d'intervenir sur l'espace public, c'est la porte ouverte à inviter justement les parents de tous horizons, de toute opinion politique aussi, à participer à ces ateliers, à ces journées justement, et puis de les sensibiliser à ces questions-ci, quelles que soient leurs convictions.
Mathias Lebet au micro de Diana Dacosta. L'action Contes, c'est donc ce dimanche après-midi au cinéma Palace à Bévillard, l'occasion aussi de visionner le film Zootopie. Les enfants réfugiés doivent lire, jouer et continuer à être des enfants. C'est le slogan de l'association suisse des auteurs et des illustrateurs de littérature pour la jeunesse basée à Bienne. Autilus appelle auteurs, illustrateurs et éditeurs à lui envoyer des livres destinés aux enfants ukrainiens arrivés dans la région. Il faut une continuité dans l'utilisation de l'ancien foyer de Presles. C'est l'avis de Catherine Favre-Alves, maire de Plateau de Diesse depuis le 1er janvier. Elle était en direct dans la matinale pour tirer un premier bilan de ses nouvelles fonctions. Et un dossier l'occupe particulièrement, le futur de l'ancien foyer d'éducation. Longtemps inoccupé, il accueille depuis quelques semaines des réfugiés venus d'Ukraine. Mais son utilisation sur le long terme est encore incertaine. Une prison pourrait y voir le jour, mais il pourrait aussi retrouver ses fonctions d'origine. Catherine Favre-Alves nous donne son avis.
Ce qu'on peut souhaiter en tant que maire, c'est que cet endroit soit occupé. Je pense que c'est assez dommage d'avoir des locaux aussi grands, inoccupés, alors que finalement, il y a plein de choses qu'on pourrait faire à cet endroit. Et il est vrai que cet endroit est plutôt prévu pour le domaine carcéral. Donc on peut s'attendre, ou en tout cas, on souhaiterait la commune qu'on continue dans cette voie. Maintenant, comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas propriétaires des bâtiments. Donc, ce n'est pas la commune mixte Plateau de Diesse qui décide, mais voilà, c'est un souhait pour nous, c'est qu'il y ait une certaine continuité dans ce dossier à l'avenir.
Et si le canton prenait une décision qui ne vous irait pas, est-ce que vous avez le droit de donner votre avis, un droit de recours?
Alors, le droit de donner votre avis, je pense, le droit de recours, je ne sais pas, c'est beaucoup plus compliqué, mais je pense que pour l'instant, en tout cas, les discussions existent entre le canton et la commune. Je pense que le canton ne fait rien sans nous avoir consultés ou en tout cas informés. Donc pour l'instant, je dirais que le dossier est en bonne voie. C'est peut-être un petit peu tôt pour donner des informations plus précises, mais en tout cas, la communication entre la commune et le canton a lieu de manière régulière et ça me paraît une bonne chose.
Catherine Favre-Alves répondait à Nadia Schmirou dans la matinale. Retrouvez son entretien au complet sur rjb.ch. Le Conseil national ne veut pas d'un moratoire pour bloquer la hausse des primes d'assurance maladie. Il a refusé aujourd'hui une motion de l'UDC. Elle visait à interdire pendant 10 ans toute augmentation du montant global des primes de l'assurance obligatoire. Le ministre de la Santé, Alain Berset, a déclaré qu'il fallait au contraire une meilleure maîtrise des coûts de la santé. Dans le domaine de la santé, toujours, le dossier électronique du patient doit être plus accessible et plus convivial. Le Conseil national a voté ce matin une motion qui l'exige. Il faut aussi le décomplexifier et centraliser l'enregistrement des données des patients. Actuellement, il y a en Suisse 9 communautés de référence et 3 systèmes proposés par la Poste, Swisscom et les pharmaciens. Il n'empêche que le dossier électronique du patient peine à convaincre. Alors, comment le rendre convivial? Écoutez à ce sujet la conseillère nationale verte vaudoise, Léonore Porcher.
Rappelez d'abord que le dossier électronique du patient, c'est un outil qui est indispensable maintenant et qu'on doit accélérer sa mise en place. Pour le rendre plus convivial, on doit d'abord faciliter son accessibilité et c'est bien pour ça qu'on a voté une motion qui pousse le Conseil fédéral à favoriser ce qu'on appelle l'interopérabilité entre les différents systèmes qui existent déjà et son accessibilité via notamment une identité électronique. Et puis, moi j'insiste particulièrement sur le besoin de formation des utilisateurs et des utilisatrices parce qu'actuellement c'est principalement des personnes qui peuvent être peut-être plus âgées, moins à l'aise avec les outils informatiques et là il y a vraiment un besoin pour leur faciliter l'utilisation de cet outil utile.
Le Conseil fédéral veut lui-même donner un coup de fouet au dossier électronique du patient. Il a mis en consultation une réforme de la loi. Elle pose la question de l'adhésion facultative ou contrainte au système. Le ministre de la Santé, Alain Berset, ce matin à la tribune du Conseil national.
Il y a également une question importante qui concerne les obligations des professionnels de la santé. Il est prévu maintenant que toutes et tous doivent à l'avenir se raccorder au dossier électronique du patient. Il est également question du caractère facultatif pour les patients. Et le Conseil fédéral a maintenant mis en consultation 2 options, soit conserver le caractère facultatif tel qu'il existe aujourd'hui, soit de mettre en place un modèle opt-out. Ça veut dire qu'a priori, toute personne a un dossier électronique du patient, sauf celle qui décide explicitement de ne pas en avoir. Le Conseil fédéral a une préférence pour le 2e modèle parce qu'il peut grandement contribuer à la diffusion du dossier électronique du patient.
Un dossier réalisé par Serge Jubin. André Duvillard a consacré une grande partie de sa carrière professionnelle à la sécurité. Le délégué au réseau national de sécurité entre la Confédération et les cantons prendra sa retraite fin juillet. Avant d'occuper ce poste, il a été commandant de la police neuchâteloise entre 2005 et 2012. Lors de son arrivée à Berne, il a dû faire face aux attentats de Paris. La Suisse n'avait à l'époque pas de stratégie de lutte contre le terrorisme. Il a fallu 2015 pour que le Conseil fédéral et les cantons l'adoptent. André Duvillard quitte ses fonctions alors que la guerre en Ukraine bat son plein et nous amène, selon lui, son lot d'enseignements.
La guerre, c'est quelque chose qu'on occulte volontiers. Et en plus, c'est vrai que la guerre froide nous a laissé penser qu'on ne vivrait plus de guerre sur le continent européen. Il y avait un certain nombre aussi de signes extrêmement tangibles. Aujourd'hui, elle est de retour. Ça montre simplement que tout ce qui a été fait, tout ce qu'on a maintenu comme compétence pour le cas d'une attaque armée se révèle aujourd'hui utile. Je crois que je suis toujours surpris de voir qu'aujourd'hui, tout d'un coup, on s'intéresse nous à savoir est-ce qu'on a assez de place dans les abris, alors qu'il y a encore 4 ou 5 ans, on se posait même la question ou la pertinence d'avoir de tels abris. On a aussi posé la question de la pertinence d'avoir encore une armée. Le Parlement a voté lundi, presque d'une seule voix, une augmentation de 2 milliards du budget. Donc on voit lorsque la menace est plus présente, il y a des changements de paradigme assez importants qui se passent. Et je pense aussi que l'être humain est ainsi fait qu'il ne veut pas avoir forcément les oiseaux de mauvais augure et puis qu'on réagit plutôt, on va dire, à court terme.
André Duvillard qui répondait à Sarah Massy. Une des journalistes les plus connues de la chaîne de télévision Panarabe Al Jazeera a été tuée ce matin par un tir de l'armée israélienne. C'est ce qu'ont affirmé des témoins et des responsables palestiniens. Elle couvrait des affrontements armés en Cisjordanie occupée. Sa chaîne a précisé dans un communiqué qu'elle portait une veste qui l'identifiait comme journaliste. L'étau russe se desserre autour de Kharkiv. Selon les autorités ukrainiennes, les occupants sont progressivement repoussés de cette ville de l'est de l'Ukraine. Elles craignent toutefois les mines laissées sur place par les forces russes. Le conflit se déplace peu à peu au sud-est du pays, en direction du Donbass. Une page se tourne pour Apple. Apple, le géant américain, a annoncé hier la fin de la production de l'iPod, son célèbre baladeur numérique qui a révolutionné l'industrie musicale. C'était au début des années 2000. Apple entend se concentrer sur ses autres produits phares comme l'iPhone. Davantage de détails avec François Comte.
L'esprit de l'iPod perdure. Grâce à lui, nous avons intégré une expérience musicale incroyable dans tous nos produits, a indiqué Apple. L'iPod a débarqué dans les rayons il y a plus de 20 ans. L'appareil a rapidement connu une forte popularité. Le lecteur MP3 ainsi que le logiciel iTunes, sorti également en 2001, ont véritablement bousculé le monde de la musique. Ils ont ainsi contribué à populariser le téléchargement légal à une époque où bon nombre de sites permettaient de récupérer de la musique sans payer un centime. Apple a vendu près de 450 millions d'iPod depuis son lancement. L'appareil a largement contribué à faire la renommée et la fortune de la firme à la pomme. Il a également inspiré l'iPhone, autre produit emblématique de la marque.
Vous écoutez RJB, il est midi 26.
Sport. Walter Dos Reis au chevet du FC Moutier. Le Zélandais a été nommé hier entraîneur de l'équipe de deuxième ligue interrégionale du club de football prévotois. Il succède à Frédéric Brugère qui a démissionné au début du mois. Il aura la difficile tâche d'éviter la relégation des Bleus et Blancs. La Lanterne Rouge compte 6 points de retard sur la barre à 5 journées du terme de la saison. Walter Dos Reis s'est également engagé pour le prochain exercice, quelle que soit la catégorie de jeu du FC Moutier. Il nous explique ses motivations.
Premièrement, j'ai joué 5 ans au FC Moutier, quand Moutier est monté en deuxième ligue inter la première fois en 2004. J'ai vécu des très belles années en prévôté. J'étais bien loin à la base, j'avais été très bien reçu. J'ai toujours été dans mon cœur, si on veut. Et puis, c'est une offre qu'on ne peut pas refuser en tant qu'entraîneur. Si on a des ambitions un petit peu, c'est un club qu'on ne peut pas refuser. Qui vivent une situation compliquée, mais plein de clubs l'ont vécu, plein de clubs se sont relevés, c'est des cycles, et puis voilà, c'est un challenge. J'espère pouvoir apporter ma patte au club, et puis qu'on retrouve une identification au club le plus vite possible.
Justement, ce sera quoi la patte Walter Dos Reis ?
Déjà, on n'est pas 100% condamné, hein, malgré que c'est très compliqué. Ça sera d'être discipliné. Et puis surtout, pour les matchs qui restent, de tout donner, pour pas qu'on ait des regrets plus tard en se disant « Ah, mais si on avait fait plus, si on avait fait ça », vraiment de travailler très dur ces prochains jours, et puis de vraiment mouiller le maillot, comme on dit, pour ce club, cette ville qui vit du football.
Walter Dos Reis était au téléphone d'Emilie Mumenthaler. Il donnera son premier entraînement aux joueurs du FC Moutier ce soir, avant de les diriger samedi à Dornard en championnat. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'info est de retour à 13h. Bon après-midi à tous.